VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Le président américain Donald Trump reçoit le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce mercredi à la Maison-Blanche, ici à Washington. À cette occasion, la dirigeante palestinienne Hanan Ashwari a critiqué la position de l'administration Trump sur la solution à deux États, politique en apparente rupture avec celle des administrations américaines précédentes pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Madame Ashraoui estime que cette nouvelle politique n'a aucun sens. Mardi, un responsable de la Maison-Blanche a affirmé que les États-Unis n'insisteraient pas sur une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens. Les premières indications de part et d'autre concernant la visite du leader israélien laissent prévoir un tête-à-tête entre deux solides alliés soucieux d'éviter toute confrontation. Au micro de Gabi Dorsil, c'est l'opinion du journaliste Scott Bob qui a longtemps couvert l'actualité israélienne.
Les deux se sont rencontrés en septembre quand M. Trump était candidat et ils s'entendaient très bien. Depuis son élection en novembre, M. Trump a un peu modéré ses positions. Alors peut-être ça inquiète un peu les Israéliens, mais aussi ils veulent quand même renforcer les relations. M. Netanyahou, en parlant avec ses ministres la veille de son départ, a dit qu'il ne faut surtout pas faire une confrontation avec M. Trump. Ils veulent plutôt essayer de collaborer. Et il a dit à la presse avant de partir lundi soir que l'alliance entre les États-Unis et Israël est forte et elle va se renforcer avec sa visite. Donc je crois que le but, c'est vraiment de trouver des points communs et de parler des différences, mais de se comprendre de mieux en mieux.
Mais Donald Trump et son entourage n'ont-ils pas toujours manifesté un appui sans réserve pour Israël et surtout pour le Premier ministre Netanyahou?
Exactement, et ça a un peu fâché les conservateurs, les faucons au sein du gouvernement de M. Netanyahou, et son gouvernement est un gouvernement très conservateur. Il a besoin de ces gens. Alors, ce sera un pas difficile pour Netanyahou de les satisfaire, de ne pas enrager sa droite en restant amis, plus amis encore avec M. Trump.
Au risque de nous répéter, Scott Bob, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette visite soit un succès pour les Israéliens?
Je crois qu'ils vont se pencher sur ce qu'ils sont d'accord, et un, c'est l'Iran. Tous les deux sont d'accord qu'il faut serrer l'Iran plus. Peut-être qu'il y aura une annonce d'encore de sanctions économiques sur Téhéran. Pour les Palestiniens, M. Trump a déjà dit qu'il aimerait redémarrer le processus de la paix qui est un peu moribonde depuis plusieurs années. Et pour ça, M. Trump a déjà dit il n'y a pas longtemps que les colonies, la construction dans les colonies n'aiderait pas le processus de paix. Alors peut-être là, on va voir moins de choses.
L'appui ouvert de la Maison-Blanche, est-ce une bonne chose pour la solution à deux États?
Pas selon les Palestiniens et le monde arabe. D'ailleurs, même M. Obama se faisait critiquer en disant qu'il était trop ami d'Israël. Donc, ça a toujours été un problème.
Autre enjeu pour cette rencontre, le dossier syrien?
Oui, d'abord, tous les deux hommes sont très concernés par les renforcements de l'Iran, et surtout en Syrie. On va voir, mais M. Trump n'a pas l'intention, à mon avis, de s'ingérer plus militairement, disons, avec des soldats en Syrie. Déjà, il y a des forces spéciales. Je crois qu'ils vont laisser les Israéliens peut-être travailler un peu plus, et peut-être il y aura des meilleurs échanges, disons, dans l'intelligence, les informations entre les deux gouvernements.
Vous êtes conseiller de Donald Trump. Quelle est l'erreur à ne pas commettre pendant cette visite?
Bonne question. Monsieur Netanyahou, quand il se sent menacé, il réagit violemment. C'est passé avec Monsieur Obama. Et alors, si j'étais Monsieur Trump, j'éviterais une confrontation au moins publique.
Scott Bob est un ancien correspondant de La Voix de l'Amérique basé à Jérusalem et actuel directeur du service francophone de la VOA. Et concernant le conflit en Syrie, à noter que les discussions sur la Syrie prévues à Astana, au Kazakhstan, à partir d'aujourd'hui, ont été repoussées d'une journée. C'est ce qu'annonce le ministère kazakh des Affaires étrangères. Ces discussions impliquent la Russie, la Turquie et l'Iran. Des délégations du gouvernement syrien et de plusieurs groupes rebelles sont déjà arrivées à Astana. L'émissaire des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a également été convié à la réunion.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise libyenne, les principaux leaders des autorités rivales en Libye prêts à former un comité visant à amender l'accord négocié sous l'égide de l'ONU pour sortir le pays de l'impasse politique. C'est ce qu'a annoncé l'Égypte qui fait office de médiateur. Plus de détails avec Salwa Jafari.
Le chef du gouvernement d'Union nationale, Faiz Sarraj, le président du Parlement de Tobruk Aguila Saleh et le maréchal Khalifa Haftar se trouvaient tous au Caire pour des discussions indirectes parrainées par l'Égypte. Ils se sont mis d'accord, sans se rencontrer, sur la formation d'un comité conjoint qui sera chargé de préparer des amendements à l'accord signé au Maroc en décembre 2015 sous l'égide de l'ONU. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye. D'un côté, le gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli est reconnu par la communauté internationale. De l'autre, une autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen et s'appuie sur le Parlement élu de Tobrouk. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar al-Kadhafi en 2011.
La Libye célèbre dans deux jours, le 17 février, le 6e anniversaire de la révolution qui a mis fin au régime de Muammar Kadhafi, mais le pays reste embourbé dans une interminable crise de transition, avec une insécurité record, une économie en lambeaux et des rivalités politiques majeures, d'où le peu d'enthousiasme de la plupart des Libyens pour fêter l'anniversaire de la révolution. Les autorités ont pourtant prévu un programme d'activités sportives et culturelles sur la place des Martyrs à Tripoli. Crise burundaise, le CNARED, plateforme regroupant la quasi-totalité de l'opposition burundaise intérieure et en exil, annonce aujourd'hui son intention de participer à la nouvelle session du dialogue inter-burundais qui s'ouvre demain jeudi à Arusha, en Tanzanie, sous l'égide du facilitateur tanzanien Benjamin Mkapa. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon un diplomate africain cité par l'AFP sous anonymat, ce nouveau round devrait se pencher pour la première fois sur des questions de fond. Il s'agit du troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza ou la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Le médiateur Benjamin Mkapa a dressé une liste de 33 participants, dont le gouvernement et ses alliés, des grandes figures du CNARED, de plateformes regroupant la quasi-totalité de l'opposition burundaise intérieure et en exil, ont été également invités, ainsi que d'anciens leaders du parti au pouvoir qui ont fui le pays après s'être opposés au troisième mandat. Toutes les tentatives de mettre à la même table le pouvoir burundais et l'opposition en exil ont jusqu'à présent échoué. La tâche s'annonce encore une fois très compliquée. La présidence burundaise n'entend pas discuter avec le CNARED, dont certains membres sont recherchés par la justice de Bujumbura.
Génocide de 1994 au Rwanda, la Cour d'appel de Stockholm en Suède a confirmé ce mercredi la condamnation à perpétuité pour génocide d'un Suédois d'origine rwandaise impliqué dans le massacre de milliers de personnes au Rwanda en 1994. L'accusé, Claver Beringkindi, 61 ans, avait été naturalisé suédois en 2012, 10 ans après son arrivée dans le pays. À l'époque, la Suède ignorait qu'il avait été condamné par contumace en 2007 par un tribunal rwandais pour génocide. Le procès en Suède a confirmé les crimes commis par Claver Beringkindi dans la province rwandaise de Butare, où il agissait comme commandant informel durant le génocide. En compagnie d'autres complices, il a pris part à l'assassinat et à l'enlèvement de très grand nombre de victimes. Plusieurs milliers de Tutsis, a souligné la cour d'appel suédoise, en maintenant sa condamnation à perpétuité. En RCA, poursuite des combats entre groupes armés rivaux, le FPRC et l'UPC, deux factions de l'ancienne coalition Séléka, s'affrontent dans plusieurs localités du centre du pays. À Bangui, les réactions sont plutôt hostiles à l'égard de ces mouvements armés. C'est le cas du journaliste Albert Mbaya, directeur de la publication Agora.
Ça ne veut rien dire. Au-delà des concepts qui sont englobés dans ces noms de partis, ce n'est pas de mouvements politiques ou militaires qu'on fabrique, il y a certainement d'autres raisons cachées qui motive cette violence dont nos compatriotes sont des victimes aujourd'hui. Aujourd'hui, la RCA, c'est le ventre mou de la sous-région, et tous les bandits du continent africain pensent que c'est là qu'il faut venir s'enrichir. La preuve, Ali Daras est le patron de l'or. Nous avons des informations selon lesquelles ce bonhomme se tape 30 kg d'or par mois.
Albert Mbaya, directeur de la publication Agora en RCA. Et puis, conflit au Soudan du Sud, un rapport confidentiel de l'ONU avertit que la guerre dans le pays a atteint des proportions catastrophiques pour les civils et que l'emprise des milices risque de devenir incontrôlable et d'alimenter les combats pour de nombreuses années. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, écrit dans ce rapport que les civils fuient villes et villages en nombre record et que le risque d'atrocité de masse est réel. C'est déterminant. Détérioration de la situation sécuritaire au Soudan du Sud suscite de profondes inquiétudes au chef de l'ONU. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.